11. Stephen King se tenait debout dans un rayon de soleil poussiéreux de fin d'après-midi. La lumière lui baignait les joues, la courbe de l'œil gauche et la fossette au coin de la bouche. Elle dessinait sur sa joue gauche des filaments brillants dans sa barbe, là où couraient des poils blancs. Il se tenait debout dans la lumière, ce qui rendait encore plus visible l'ombre qui l'entourait. Sa respiration s'était ralentie, descendant à 3 ou 4 inspirations par minute. « Stephen King, » articula Roland. « Me voyez-vous ?»«
Ah, il pistolero, je vous vois très bien. »«
Quand m'avez-vous vu pour la première fois ?»«
Aujourd'hui même. »
Roland parut surpris et un peu frustré. De toute évidence, ce n'était pas la réponse qu'il attendait. Puis King reprit.
« C'est Cuthbert que j'ai vu, pas vous. »
Une pause.
« Vous et Cuthbert, vous avez mis des miettes de pain sous le gibet. C'est dans la partie déjà écrite. »
« Si fait, nous avons rompu le pain, pendant que Axe, le cuisinier, se balançait au bout de la corde. Nous n'étions que des goujats. C'est Bert qui vous a raconté cette histoire ?»
Mais King ne répondit pas. « J'ai vu Eddie. Je l'ai vu très clairement. »
Une pause.
« Cuthbert et Eddie sont jumeaux. »«
Roland !»
intervint Eddie à voix basse.
Roland le fit taire d'un violent mouvement de la tête et posa sur la table la balle qu'il avait utilisée pour envoûter King. King continuait de fixer l'endroit où le pistolero l'avait tenu entre ses doigts, comme si elle était toujours là. Sans doute la voyait-il toujours. Des particules de poussière dansaient autour de sa chevelure noire et hirsute. « Où étiez-vous quand vous avez vu Cuthbert et Eddie ?»«
Dans la grange. »
La voix de King se brisa. Ses lèvres s'étaient mises à trembler.
« Tantine m'y avait envoyé parce qu'on avait essayé de s'enfuir. »
« Qui avait tenté de s'enfuir ?»«
Moi et mon frère Dave. » Ils nous ont pris et ils nous ont ramenés. Ils ont dit qu'on était très très méchants.
Et vous avez dû aller dans la grange?
Oui, pour scier du bois.
C'était votre punition?
Oui.
Une larme perla au coin de l'œil droit de King. Elle dévala le long de sa joue et s'arrêta au bord de sa barbe.
Les poulets sont morts.
Les poulets dans la grange?
Oui, ceux-là.
D'autres larmes parurent. Qu'est-ce qui les a tués?
L'oncle Lorraine, il dit que c'est la grippe aviaire. Ils ont les yeux ouverts. Ça fait un peu peur.
Ou peut-être pas qu'un peu, pensa Eddie en voyant les larmes sur les joues pâles de cet homme. Vous ne pouviez pas sortir de la grange?
Pas avant d'avoir fini de scier ma part de bois. David a fait la sienne. « C'est mon tour. Il y a des araignées dans les poulets, des araignées dans leurs tripes, des petites rouges, comme du poivre rouge, ça fait. Si elles me viennent dessus, je vais attraper la grippe et je vais mourir. Mais alors je reviendrai. »«
Pourquoi ?»«
Parce que je serai un vampire. Je serai son esclave à lui, son scribe peut-être bien, son écrivain domestique. »«
Le scribe de qui ?»
Du seigneur des araignées, du roi cramoisi, entouré.
Mon Dieu, Roland, chuchota Eddie. Il tremblait. Qu'avait-il découvert là? Quel nid venait-il de mettre au jour? Cy King, Steve, quel âge aviez-vous? Quel âge as-tu?
J'ai 7 ans.
Une pause.
Je mouille mon pantalon. Je ne veux pas que les araignées me piquent, les araignées rouges. Et c'est alors que tu es venu, toi, Eddie, et j'ai été libéré.
Un sourire enchanteur ralluma ses traits, plissant ses joues ruisselantes de larmes. « Êtes-vous endormi, Stephen ?» demanda Roland.
« Si fait. »
« Allez, plus profond. »«
D'accord. »
« Je vais compter jusqu'à 3. » À 3, vous dormirez aussi profondément que vous le pourrez.
D'accord.
1.
deux. Trois. À trois, la tête de King roula et son menton alla reposer sur sa poitrine. Un filament argenté de bave pendait de sa lèvre comme un pendule. « À présent, on sait quelque chose, » dit Roland Tidy. « Peut-être même quelque chose de crucial. Il a été contacté par le roi cramoisi alors qu'il n'était qu'un enfant. Mais il semble qu'on l'ait gagné à notre cause. Que tu l'aies gagné à notre cause, Eddie. Toi et mon vieil ami Bert. Quoi qu'il en soit, ça fait de lui une sorte d'élu. »
Je serais plus à l'aise avec cet acte héroïque si seulement je m'en souvenais,
glissa Eddie. Avant d'ajouter,
tu te rends compte que quand Steve avait 7 ans, je n'étais même pas né?
Roland te sourit. Le cas est une roue. Tu tournes avec elle sous différentes identités depuis bien, bien long. Cuthbert est l'une d'elles, semble-t-il.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de roi cramoisi entouré?
Je n'en ai pas la moindre idée. Roland se tourna de nouveau vers Stephen King. Combien de fois le seigneur de Discordia a-t-il essayé de vous tuer, d'après vous, Stephen? De vous tuer pour faire taire votre plume, pour faire taire votre bouche de petit fauteur de troubles? Depuis cette première fois dans la grange de votre oncle et de votre tante? King essaya visiblement de compter, puis secoua la tête.
De là,
dit-il.
Beaucoup.
Eddie et Roland échangèrent un regard. Et est-ce que quelqu'un s'interpose toujours? Demanda Roland.
Nenny, Sai, ne croyez pas ça. Je ne suis pas impuissant. Parfois, je me mets à l'abri.
Roland ne put s'empêcher de rire. Le bruit sec d'un bâton qu'on casse en deux sur le genou. Savez-vous ce que vous êtes?
D'abord un père, ensuite un mari, puis un écrivain et un frère. Après le frère, je sèche, ok?
Non, pas ok. Savez-vous ce que vous êtes? Il y eut un long silence.
Non. Je vous ai dit tout ce que je savais. Arrêtez de me poser des questions.
J'arrêterai quand vous direz la vérité. Savez-vous?
Oui, d'accord. Je vois où vous voulez en venir. Satisfait?
Pas tout à fait. Dites-moi ce que...
Je suis Gan. Ou je suis possédé par Gan, je ne sais pas. Mais peut-être que ça revient au même.
King se mit à pleurer. Des larmes silencieuses, insupportables.
Mais ce n'est pas dit. Je me suis retourné de dit. Je répudie dit. Ça devrait suffire, mais visiblement ça ne suffit pas. Le cas n'est jamais satisfait. Ce bon vieux cas est avide. C'est bien ce qu'elle a dit, n'est-ce pas? C'est ce qu'a dit Suzanne Delgado avant que vous la tuiez, ou que je la tue, ou que Gan la tue. Comme je le déteste, ce vieux cas avide. Peu importe qui l'a tué, c'est moi qui lui ai fait dire ça, moi, par pure haine pour le cas. Je rue dans les brancards du cas et je ruerai jusqu'au jour où j'irai dans la clairière au bout du sentier.
Roland s'assit à la table. Le nom de Suzanne l'avait fait blêmir.
Et toujours le cas vient à moi. Il vient de moi, je ne fais que le traduire, je suis fait pour cette traduction. Le cas jaillit de mon nombril comme un ruban. Je ne suis pas le cas. Je ne suis pas ce ruban. Il ne fait que passer à travers moi, et je le déteste, je le déteste. Les poulets étaient remplis d'araignées, vous comprenez ça? Remplis d'araignées!
Arrêtez de pleurnicher, ordonna Roland, avec un manque remarquable de compassion, nota Eddie. Et King se tut. Le pistolero resta assis là à réfléchir, puis il releva la tête. Pourquoi avoir arrêté d'écrire l'histoire au moment où j'atteins la mer occidentale?
Mais vous êtes stupide ou quoi? Parce que je ne veux pas être Gan. Je me suis bien détourné de Dee. Je devrais être capable de me détourner de Gan. J'aime ma femme. J'aime mes gosses. J'aime écrire des histoires, mais je ne veux pas écrire la vôtre. Je passe mon temps à avoir peur. Ils me cherchent.
l'œil du roi.
Mais plus depuis que vous avez arrêté, conclut Roland.
Non, depuis il ne me cherche point, il ne me voit point.
Néanmoins, vous devez poursuivre. Les traits de King se tordirent, comme s'il était frappé d'une douleur vive et soudaine, puis son visage reprit l'apparence lisse du sommeil. Roland leva sa main droite mutilée.
« Quand vous vous y remettrez, reprenez à la scène où j'ai perdu mes doigts. Vous vous rappelez ?»«
Les omarstruosités, » fit King, « arrachés. »«
Comment savez-vous ce qui s'est passé ?»
King eut un petit sourire et fit glisser l'air entre ses lèvres, émettant un doux sifflement.
Le vent souffle.
Gan a accouché du monde, puis il a fait changer le monde, répliqua Roland. C'est ce que vous essayez de dire?
Si fait. Et le monde aurait chu dans l'abysse sans la grande tortue. Au lieu de tomber, il a atterri sur son dos.
C'est ce qu'on nous a dit. Et nous en disons tous grand merci. Reprenez à la scène des omarstruosités sur la plage, quand elle m'arrache les doigts.
Est-ce que Sheik, ou est-ce que Choix, ces foutus omars vous ont bouffé les doigts?
Lança King, puis il éclata de rire.
Oui.
Ça m'aurait épargné tout un tas d'ennuis si vous étiez mort là-bas, Roland, fils de Stephen.
Je sais. À Eddie et à mes autres amis aussi.
L'ombre d'un sourire passa au coin des lèvres du pistolero.
Ensuite, après la scène des omarstruosités,
Eddie arrive.
L'interrompit King en accompagnant ses paroles d'un petit geste rêveur de la main droite, comme pour dire qu'il savait déjà tout ça et que ce n'était pas la peine que Roland perde son temps à tout lui expliquer.
Le prisonnier, le pousseur, la dame d'ombre. Le boulanger, le pâtissier, le vendeur de bistec.
Il sourit.
C'est comme ça que dit mon fils Joe.
Quand ? Pris par surprise, Roland fronça les sourcils.
Quand ?
King leva la main. Et Eddie vit avec stupéfaction le grille-pain, le moule à gaufres et l'égouttoir rempli de vaisselle propre se soulever et flotter dans la lumière.
« Vous me demandez quand vous devez reprendre l'écriture ?»«
Oui. »
Un couteau s'éleva de l'égouttoir et traversa toute la pièce pour aller se planter dans le mur, où la lame tremblota quelques secondes. Puis tout reprit sa place.
Roland te répondit. Guettez le chant de la tortue et le cri de l'ours.
Chant de la tortue, cri de l'ours. Mathurin, comme dans les romans de Patrick O'Brien. Et Chardik, comme dans le roman de Richard Adams.
Oui, si vous le dites.
Les gardiens du rayon.
Oui.
De mon rayon.
Roland le regarda avec intensité.
Vous dites ainsi ?
Oui.
Qu'il en soit ainsi alors. Quand vous entendrez le chant de la tortue ou le cri de l'ours, alors vous devrez vous y remettre.
Quand j'ouvrirai les yeux sur votre monde, il me verra.
King marqua une pause.
Ça me verra.
Je le sais. Nous essaierons de vous protéger dans ces moments-là. « Tout comme nous avons l'intention de protéger la rose. »
King sourit.
« Je l'aime, cette rose. Vous l'avez vue ?»
demanda Eddie.
« Bien sûr que je l'ai vue, à New York. Dans la rue qui part de l'hôtel Plaza de l'ONU. À l'époque, elle était dans l'épicerie chez Tom et Jerry, à l'arrière. Maintenant, elle est à l'emplacement de la boutique, dans le terrain vague. »
« Vous raconterez notre histoire jusqu'à ce que vous vous sentiez fatigué, » expliqua Roland. « Quand vous ne pourrez plus la raconter, quand le chant de la tortue et le cri de l'ours deviendront lointains et faibles à votre oreille, alors vous prendrez du repos. Et quand vous serez prêt à vous y remettrez.
Vous, Roland ?»«
Sai King. »«
Je ferai ce que vous dites. » Je guetterai le chant de la tortue et à chaque fois que je l'entendrai, je poursuivrai le récit.
si je survis. Mais il faut que vous écoutiez, vous aussi. Guettez son chant à elle.
Qui ça, elle?
Susanna. Le bébé la tuera si vous ne faites pas vite, et vous devrez dresser l'oreille.
Eddie adressa à Roland un regard effrayé. Roland hocha la tête, il était temps de partir.
Écoutez-moi, Cy King. Ce fut une heureuse rencontre que la nôtre, à Bridgetown. Mais l'heure est venue pour nous de vous quitter.
Très bien,
dit King avec un soulagement tellement criant qu'Eddie faillit éclater de rire.
Vous allez rester ici, exactement là où vous vous trouvez, pendant 10 minutes. Vous comprenez?
Oui.
Ensuite, vous vous réveillerez. Vous vous sentirez très bien. Vous ne vous rappellerez pas que nous sommes venus, sauf dans les confins les plus enfouis de votre mémoire.
Dans les trous de vase?
Dans les trous de vase, si cela vous sied. En surface, vous croirez juste avoir fait un petit somme. Un merveilleux petit somme réparateur. Vous irez chercher votre fils et vous irez là où vous êtes censé aller. Vous vous sentirez bien. Vous reprendrez le cours de votre vie. Vous écrirez de nombreuses histoires, mais chacune sera plus ou moins reliée à celle-ci. Vous comprenez?
Oui, là,
fit King. Et sa voix ressemblait tellement à celle de Roland quand ce dernier était bourru et fatigué qu'Eddie sentit la chair de poule lui courir une nouvelle fois sur l'échine.
Parce que ce qui a été vu ne peut être rendu au néant, ni ce qui est su rendu à l'ignorance.
Il marqua une pause. Sauf peut-être dans la mort.
Si fait, peut-être.
Chaque fois que vous entendrez le chant de la tortue, si c'est à ça que ça ressemble pour vous, vous reprendrez notre histoire. La seule histoire véritable que vous ayez à raconter. Et nous essaierons de vous protéger.
J'ai peur.
Je sais.
Mais nous essaierons de...
Pas de ça.
J'ai peur de ne pas pouvoir finir. Il baissa la voix.
J'ai peur que la tour s'effondre et qu'on m'en tienne pour responsable.
C'est le cas qui décide, pas vous,
dit Roland,
ni moi. Je suis en paix avec moi-même sur ce point. Et maintenant,
il adressa un signe de tête à Eddie et se leva.
Attendez,
fit King.
Roland le regarda, les sourcils arqués.
J'ai droit à une lettre, rien qu'une seule.
On dirait un gamin au colo, songea Eddie. Puis il commenta à voix haute.
« Et qui vous donne droit à une lettre, Steve O ?»
King fronça les sourcils.
« Gan ?»
demanda-t-il.
« Est-ce que c'est Gan ?»
Puis, comme si la lumière du soleil venait de percer un épais brouillard matinal, son front redevint lisse et un sourire éclaira son visage.
« Je crois que c'est moi. Je peux m'envoyer une lettre à moi-même ?» Peut-être même un petit paquet, mais rien qu'une fois.
Son sourire se fit plus accentué et plus attachant encore.
Tout ça, c'est un peu comme un conte de fées, pas vrai?
Ouais, tout à fait, fit Eddie, se remémorant le palais de verre sur lequel ils étaient tombés au beau milieu de l'autoroute du Kansas.
À qui? Demanda Roland. À qui voudriez-vous envoyer du courrier?
« À Jake !»
s'empressa de répondre King.
« Et qu'aimeriez-vous lui dire ?»
La voix de King devint identique à celle d'Eddie. Pas ressemblante, exactement identique. En l'entendant, Eddie se glaça.
« Hé, copain, il n'y a pas à s'inquiéter !» chantonna King. « Pas de souci, tu as la clé !»
Ils attendirent la suite, mais il semblait ne pas y avoir de suite. Eddie regarda Roland, et cette fois-ci, ce fut le tour du jeune homme d'imiter le geste du pistolero. Le moulinet de la main sous-titré « On y va ?» Roland acquiesça et ils se dirigèrent vers la porte.
« C'est sacrément flippant dans le genre !»
résuma Eddie. Roland ne répondit rien. Eddie l'arrêta en lui posant une main sur le bras.
Une autre chose me vient à l'esprit, Roland. Pendant qu'il était envoûté, t'aurais peut-être dû lui dire d'arrêter de boire et de fumer, surtout les clopes. Il est infernal avec ça. T'as vu cet endroit? Des foutus cendriers partout.
Roland eut l'air amusé. Et dit, si on attend que les poumons soient complètement formés, le tabac prolonge la vie, il ne la raccourcit pas. C'est pourquoi, à Gilead, tout le monde fume hormis les miséreux, et même eux, on leur spatte. Le tabac préserve des vapeurs de maladies, pour commencer, et de beaucoup d'insectes dangereux aussi. Tout le monde sait ça.
Le ministre de la Santé des États-Unis serait ravi d'apprendre ce que tout le monde à Gilead a l'air de savoir, fit sèchement Eddie. Et la picole, alors? Imagine qu'ils mettent sa jeep dans le fossé une nuit de beuverie ou qu'ils prennent l'autoroute à contresens et qu'ils heurtent quelqu'un de plein fouet.
Roland considéra la situation, puis secoua la tête. J'ai touché à son esprit et au cas, autant que je le souhaitais, autant que je l'osais. Il faudra qu'on vienne vérifier de temps en temps de toutes. Quoi? Pourquoi est-ce que tu secoues la tête comme ça? C'est lui qui déroule le compte.
C'est bien possible, mais on ne sera pas en mesure de venir vérifier avant 22 ans, à moins qu'on décide d'abandonner Susanna. Et je ferai jamais ça. Une fois qu'on aura fait le saut jusqu'en 1999, pas de retour en arrière. Pas dans ce monde-ci.
Pendant un moment, Roland resta silencieux et se contenta de fixer cet homme appuyé contre le comptoir de sa cuisine, dormant debout, les yeux ouverts et les cheveux en bataille sur le front. D'ici 7 à 8 minutes, King se réveillerait sans aucun souvenir de Roland et d'Eddie. À supposer qu'il soit parti, bien sûr. Eddie ne croyait pas pour de bon que Roland laisserait Susanna sur la corde raide trop longtemps. Mais il avait aussi laissé tomber Jake, pas vrai? Il avait lâché Jake dans le gouffre autrefois. Alors il va falloir qu'il y arrive tout seul, conclut Roland, et Eddie poussa un soupir de soulagement. Cy King.
Oui, Roland?
Rappelez-vous, quand vous entendrez le chant de la tortue, vous devrez interrompre tout le reste et reprendre notre histoire.
Je le ferai. J'essaierai, du moins.
Bien. Puis l'écrivain dit, il faut retirer la boule du plateau de jeu et la briser.
Roland fronça les sourcils.
Quelle boule? La 13e noire?
Si elle se réveille, elle deviendra la chose la plus dangereuse de l'univers. Et elle est en train de se réveiller. Ailleurs. Dans un autre où et un autre quand.
Merci pour votre prophétie, Cy King.
1, 2, 3, 3 petits tours. Menez la boule à la double tour.
À ces paroles, Roland secoua la tête, tellement perplexe qu'il ne sut quoi répondre.
Eddie porta le poing à son front et s'inclina légèrement. Heil, Romancero!
Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Roland, comme s'il trouvait l'expression ridicule. Mais il ne fit aucun commentaire. « Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, » lui dit Roland. « Ne pensez plus au poulet, ce n'est plus la peine. »
Une expression d'espoir à fendre le cœur se peignit sur le visage barbu de Stephen King. « Vraiment? Vous dites ainsi? »
Oui, vraiment. Et fasse la providence que nous nous rencontrions de nouveau avant la clairière au bout du sentier.
Sur ces paroles, le pistolero tourna les talons et quitta la maison de l'auteur.
Eddie jeta un regard ultime au grand homme un peu courbé, debout avec son bassin étroit appuyé contre le comptoir.
Et il se dit, « La prochaine fois que je te verrai, Stevie, s'il m'est donné de te revoir, tu auras la barbe presque blanche et des rides sur le visage. Et moi, je serai toujours jeune. Comment va ta tension, Cy? Assez bonne pour tenir encore 22 ans? J'espère bien. Et le palpitant? Des antécédents de cancer dans la famille? Et si oui, combien?
Il n'avait plus le temps pour ces questions, bien entendu. Ni pour celle-là, ni pour aucune autre.
Très bientôt, l'écrivain se réveillerait et il reprendrait sa vie d'avant. Eddie suivit son dîne dans l'après-midi finissant en refermant la porte derrière lui. Il commençait à se dire qu'en les envoyant ici plutôt qu'à New York, le cas savait peut-être ce qu'il faisait, finalement. 12. Eddie s'arrêta près de la voiture de John Cullum, côté conducteur, et adressa au pistolero un regard par-dessus le toit. « T'as remarqué ce truc autour de lui, ce halo noir ?»«
La Vahadana, oui. Remercie ton père qu'elle ne soit encore que très légère. »«
La Vahadana ? Qu'est-ce que c'est ? Ça commence comme Vahadash. »
Roland opina de la tête. « C'est une variante du même mot. » Ça veut dire « sac de mort ». Il a été marqué.
D'où Jésus ?
Puisque je te dis qu'elle est légère.
Mais elle est là !
Roland ouvrit sa portière. On ne peut rien y faire. Le cas inscrit le temps de chaque homme et de chaque femme. Allons-y, Eddie. Mais à présent qu'ils étaient réellement prêts à reprendre la route, Eddie se trouvait bizarrement réticent. Il avait le sentiment d'avoir laissé les choses inachevées avec Cy King, et il détestait l'idée même de cette aura noire.
Et le chemin du dos de la tortue, et les entrants, je voulais lui demander.
On la trouvera bien.
T'en es certain? Parce que je pense qu'il faut absolument qu'on y aille.
Moi aussi, c'est ce que je pense. Viens, il nous reste beaucoup à faire.
13.
Les feux arrière de la vieille Ford avaient à peine disparu de l'allée d'arrivée que Stephen King ouvrit les yeux. Son premier réflexe fut de consulter la pendule. Presque 4 heures. Il aurait dû partir chercher Joe il y a déjà 10 minutes, mais ce petit somme lui avait fait du bien. Il se sentait dans une forme éblouissante, requinqué, comme nettoyé bizarrement. Si tous les petits sommes pouvaient faire cet effet-là, le petit somme deviendrait un devoir civique, se dit-il. Peut-être bien. Mais en attendant, Betty Jones allait se faire un sang d'encre si elle ne voyait pas la Cherokee s'engager dans sa cour avant 4h30. King attrapa le téléphone pour l'appeler, mais ses yeux se posèrent sur le bloc-notes sur le bureau. L'entête disait « Les guignols à rappeler ». Un petit cadeau de l'une de ses belles sœurs. Un voile passa de nouveau sur son visage, et King attrapa le bloc et le stylo posé à côté. Il se pencha et écrivit « Hé, copain, y a pas à s'inquiéter, pas de souci, tu as la clé. » Il marqua une pause, fixant les mots sur la feuille, puis ajouta « Hé, l'ami, faudrait pas se tromper, elle est bien en plastique, cette clé. » Il contempla ce qu'il avait écrit avec un grand élan d'affection, presque de l'amour. Dieu tout-puissant, qu'il se sentait bien. Ces phrases ne voulaient rien dire du tout, pourtant les écrire lui avaient procuré une satisfaction proche de l'extase. King déchira la page, en fit une boule et la mangea. Elle resta quelques secondes coincée dans sa gorge, et puis, gloups, elle descendit tout droit. Parfait. Il attrapa la « il n'y a pas à s'inquiéter » clé de la Jeep sur le petit présentoir en bois qui avait lui-même la forme d'une clé et se précipita dehors. Il irait chercher Joe, ils reviendraient faire leur sac, ils prendraient quelque chose à grignoter au passage chez Mickey à South Paris.
Oups, Mickey.
Il avait l'impression qu'il pourrait avaler un bœuf à lui tout seul, avec des frites bien sûr. Bon sang, ce qu'il se sentait bien. En atteignant la route du Kansas et en tournant en direction de la ville, il alluma la radio et tomba sur les McCoy qui chantaient « Hang on, Sloopy ». Toujours excellent. Son esprit vagabonda, comme ça lui arrivait souvent quand il écoutait la radio, et il se surprit à repenser au personnage de cette vieille histoire, la tour sombre. On ne pouvait pas dire qu'il en restait des masses. S'il se rappelait bien, il en avait tué la plupart, même le gosse. Sans doute qu'il n'avait pas su quoi en faire d'autre. C'est souvent pour cette raison qu'on se débarrassait des personnages, parce qu'on ne savait plus quoi en faire. Comment il s'appelait déjà ?
Jack. Non, ça, c'était le papa de Shining. Le gamin de la tour sombre, c'était Jake. Très bon choix de nom pour une histoire sur fond de décor western. Quelque chose de Wayne D. Overholser ou de Ray Hogan, peut-être. Est-ce qu'il serait possible de faire revenir Jake dans cette histoire? Comme fantôme, peut-être. Bien sûr que c'était possible. Ce qu'il y avait de bien avec ces histoires surnaturelles, se fit remarquer King, c'est que personne n'avait à mourir pour de bon. Il pouvait toujours revenir, comme ce type, Barnabas, dans Dark Shadows. Barnabas Collins était un vampire. Peut-être que ce gamin pourrait revenir en vampire, dit King. Puis il éclata de rire. « Fais gaffe, Roland, madame est servie et le dîner, c'est toi. » Mais ça ne collait pas. Bon, quoi alors? Rien ne lui vint, mais c'était sans importance. Ça viendrait peut-être avec le temps. Sans doute au moment où il s'y attendrait le moins. Quand il serait en train de nourrir le chat ou de changer le bébé, ou tout simplement en train de faire les 100 pas d'un air morne, comme disait Oden dans ce poème sur la souffrance. Pas de souffrance aujourd'hui. Aujourd'hui, il se sentait en pleine forme. Oui, là, appelez-moi Tony le Tigre. À la radio, les McCoy cédèrent la place à Troy Chandel, qui chantait This Time. Ce truc de la tour sombre, c'était quand même intéressant. Et King se dit, peut-être que, quand on reviendra du Nord, ça vaudrait le coup que je le ressorte de son tiroir pour y jeter un coup d'œil. Ça n'était pas une mauvaise idée. Soliste. Comme à là vienne l'appel, nous acclamons celui qui nous fit tous, qui fit les hommes et les 12 donzelles, qui fit les grands et les petits, les sages et les fous. Cœur. Comme à là vienne l'appel, il fit les grands et les petits, les sages et les fous. Pourtant, combien puissante la main du destin cruel qui nous dirige chacun et tous.